Chapitre 8. Cointre à l'ouvrage. L'inspecteur Cointre n'était pas un étranger pour moi. Je l'avais déjà rencontré à plusieurs reprises au cours de ma carrière. Des affaires quelconques m'avaient procuré l'occasion de le voir travailler avec méthode et sagacité. Mais j'en étais encore à me demander si ses talents de spécialiste méritaient la réputation qu'on leur avait faite quai des Orfèvres. C'est dire l'intérêt professionnel que m'avait inspiré le meurtre de M. de Crochant lorsqu'il m'était apparu que Cointre et les médiums allaient en venir aux mains à propos de ce crime. C'est dire encore combien me passionnait ce second meurtre, commis sous le même toit, qui doublait le mystère de la rue d'Assas et proposait à Cointre une tâche agrandie. Un homme intelligent, ce Cointre, mais un homme, et qui le montrait bien, car il aimait à rire et se trompait parfois. Un homme au milieu de tous les autres. Un court personnage râblé, au front solide, à l'œil franc, au regard direct, avec des biceps pleins ses manches et des mollets de chasseur à pied. Quelqu'un de vivant et d'imparfait. Rien d'infaillible, mais tout d'un bon détective qui fait ce qu'il peut. Pas de manie, pas de pipe anglaise, pas de cigare américain qu'on chique et qu'on fume en même temps. Non, un inspecteur rempli de zèle et d'allant, comme notre sûreté en possède plusieurs. Pas très distingué, sans doute, et fâcheusement épris de tournure tautologique. Mais du volume, du relief, assez de volume pour tenir sa place dans l'existence, trop de relief pour se contenter de vivre entre les feuillets d'un roman. Il me tardait de le voir à l'œuvre, et en sortant du commissariat de la rue d'Assas, je marchais à ses côtés comme auprès d'un champion qu'on accompagne au stade, avant de l'applaudir. Chemin faisant, Stéphane, d'une voix entrecoupée, nous raconta son entrée chez son père, son horreur et sa fuite. Il répétait avec une insistance piteuse qu'il n'avait rien dérangé, qu'il n'était resté qu'une minute, que sa concierge l'avait vu sortir de chez lui à 8 heures, plutôt un peu après. Je laissais à penser la mauvaise impression que cela pouvait faire. Si encore le pauvre garçon avait semblé convaincu de ce qu'il certifiait, mais loin de là, il parlait en vérité comme s'il avait voulu se convaincre lui-même. Je crus nécessaire de prendre Cointre à part et de le renseigner sur l'état mental de Stéphane et sur la cause accidentelle qu'il avait suscitée. Nous arrivâmes. L'électricité fonctionna. « Mais qu'est-ce que cela signifie ?» s'exclama Stéphane. « Ben, cela signifie, dit Cointre, que vous avez mal tourné le commutateur ou que le meurtrier se trouvait encore là lors de votre visite et qu'il a pris le temps de rétablir le circuit avant de disparaître. Dans quel but ? De nous surprendre ? D'opérer quelques rapides investigations ou que sais-je ? » Je compris qu'il pensait ou de vous compromettre, à moins que ce ne soit vous qui ayez menti. Stéphane avait chaud. Nous pénétrâmes dans le salon. Cointre referma la fenêtre et fit donner toutes les lampes. Il s'approcha du cadavre et l'examina de point en point, sans toutefois le toucher. « Hum !» murmura-t-il. « C'est bizarroïde et étrangiforme. Laissez le couteau. Oh, il est bien mort, mais tiède. Oh, il n'y a pas longtemps. Tout à l'heure, cet homme vivait encore. Vous seriez arrivé un peu plus tôt, monsieur. Peut-être empêchiez-vous le drame. » Stéphane s'assit dans un coin. L'inspecteur passait la revue du théâtre du crime. Autour de la table ronde, de ci, de là, des sièges faisaient un cercle comprenant le fauteuil de l'assassiné. Cointre flaira l'atmosphère. « Oh, toute franchise et sincérité, dit-il, j'affirme et je déclare qu'une séance de spiritisme battait son plein lorsque la victime a été frappée. » L'absence des époux Crépin me paraissait des plus louches. La figure d'Hermance m'avait toujours déplu, mais j'estimais profitable de laisser l'inspecteur se livrer à ses recherches en toute indépendance. Il avait tiré de sa poche un canif et décousait avec prestesse le capitonnage d'une chaise. Qu'est-ce que j'ai toujours dit? Tenez, regardez-moi ça. Le siège formait une espèce de boîte, et de cette boîte, Cointre venait d'extraire, l'un après l'autre, plusieurs objets ratatinés qu'il déplia sous nos yeux. C'étaient des perruques blanches, noires, rousses, des fausses barbes, un masque en soie de couleur chair, une tête de jersey admirablement peinte, une main de caoutchouc qu'il gonfla en soufflant à l'intérieur. « Voici l'arsenal, disait-il. C'est avec cela qu'on abuse de la crédulité et de la bonne foi. Subterfuge et supercherie. Voyez, sous la chaise, cette trappe d'étoffe. C'est par là que le médium tirait l'accessoire dont il avait besoin. Bon, à ce fauteuil, maintenant. Oh, cette fois-ci, la trappe est sur le côté. Un secret encore. Bien, bon, me décousons toujours. » Le fauteuil éventré nous laisse avoir un flacon d'odeur, un morceau de phosphore, un petit sac rempli d'épingles, un coupon de crêpe de Chine d'une blancheur grisâtre et quelque chose qui ressemblait à l'armature d'un parapluie. Cette armature, déployée et recouverte de crêpe blanc, prit l'aspect vague d'un fantôme avec son suaire. « Les voilà, les matérialisations !» faisait Cointre. « Et les dématérialisations ? Les voilà, les formes tangibles et photographiables. Messieurs, vous savez maintenant à quoi vous en tenir. L'ectoplasme, l'idéoplastie, ben voilà ce que c'est, une mascarade. Moralité, quand vous fréquentez les médiums, n'ayez jamais de meubles à faire recouvrir ou méfiez-vous de votre tapissier. » Nous l'écoutions, nous assistions à ses exploits. « Ça va bien, » fit-il, « laissons cet attirail. Je suis fixé sur la compagnie qui entourait M. Édouard Orlac. Bon, à présent, occupons-nous de lui-même. C'est ici que l'orateur bredouille et balbutie. » Il revint au cadavre. « Couteau marqué d'un X, » dit-il. « Fantaisie du meilleur goût. Joli travail, un seul coup, non ?» Un autre là, sous la jaquette, en plein cœur, et double. Oh oh, les deux coups sont doubles. Dors-je ou sommeillais-je? Ah, bien celle-là. Messieurs, passez-moi le mot, c'est surprenant, et si j'ose dire, peu banal. Du bout des doigts, il retira doucement le couteau, vrai surin d'Apache, écarta les vêtements de la victime, son linge, sa flanelle, et nous montra deux plaies rigoureusement pareilles, l'une au cœur, l'autre au milieu de la poitrine, toutes les deux en forme de croix de Saint-André, ou si l'on préfère, en forme de X. « C'est de l'art ou je ne m'y connais pas ?» dit le commissaire stupéfait. « Oui, bien, mon vieux, » repartit Cointre, « si mes superstitions se vérifient, vous n'avez pas fini de crier au miracle. Saperlotte, tout de même, si j'ose exprimer ainsi, ce serait pas ordinaire. » Nous le vîmes alors saisir une lampe portative et, cédant de sa lumière, examiner à la loupe le bord de la porte, le bois des dossiers de chaise, la table, le marbre de la cheminée et surtout le manche du couteau. Cela fait, il nous montra sur ce manche des macules fort nuageuses où, pour ma part, je ne distinguais que des embûches sans intérêt. « Voyez-vous ça ? » dit-il. Mais il fut interrompu par le bruit d'un passe-partout fourrageant la serrure de la porte d'entrée, et tout aussitôt les époux crépins furent devant nous. Ils étaient en habit du dimanche. À notre vue, au spectacle de leur maître indubitablement trépassé, les domestiques s'abandonnèrent à toutes les expressions de la stupeur et du désespoir. En quelques paroles, le commissaire les mit au fait de l'assassinat. « C'est donc ça, vagit Vermance. » Elle nous tendait un télégramme. « Nous avons reçu cette dépêche-là hier soir, » compléta Crépin. Cointre lisait sans lâcher le couteau. « Sœur au plus mal, Vous attendons demain sans faute Eugène. » Ernest reprit : « Eugène, c'est mon beau-frère. Il habite Bar-le-Duc, alors nous sommes partis ce matin pour Bar-le-Duc, m'ennuyer, parce que notre monsieur avait séance ce soir et que moi, je n'aimais pas que je m'absente dans ces moments-là. Et là-bas, comme de bien entendu, on ne savait pas seulement ce que ça voulait dire. Votre sœur se portait bien, n'est-ce pas ? Et votre beau-frère n'avait expédié aucun télégramme, traduisit l'inspecteur. » « Alors, fit Crespin, on s'en doutait d'un malheur et on a repris le train. Trop tard, bon sang, oh, c'est-y bête de se laisser rouler comme ça. Notre pauvre monsieur, notre pauvre monsieur. Ah, je savais bien que toutes ces diableries-là finiraient mal. » Cependant, Herman, se avisant Stephen dans son coin, lui dit d'une bouche fielleuse : « Ah, monsieur Stephen, vous voilà là. Quelle affaire, dites donc. Mais voilà que vous héritez à cette heure. C'est pas dommage pour vous depuis le temps. » Stephen tressaillit comme sous une accusation. À bout de force, il détourna les yeux, haussa imperceptiblement les épaules et se renferma dans le silence de sa torpeur. « Un beau chiffon !» grommela le commissaire. Moi, j'avais infiniment pitié de lui. Mais pourrais-je affirmer qu'un doute ne s'était pas glissé dans mon esprit ? Cette satisfaction que j'allais ressentir quelques minutes plus tard, pendant le monologue de Cointre, n'était-ce pas l'obscur soulagement de voir l'inculpation s'éloigner du mari de Rosine ? Et qui c'est qui l'a tué ? Proféra Hermance. Qui sait ? Releva Cointre, qui tenait toujours délicatement le couteau ensanglanté. Il mordillait ses courtes moustaches, et de dessous son front dense et robuste, il regardait dans le rêve un point fixement. Cointre soucieux, Cointre décontenancé. Enfin, il prit la parole, mais sans cette belle humeur qui l'égayait auparavant. On voyait bien que parler ne l'empêchait pas de penser à autre chose et qu'il continuait de poursuivre dans une forêt de songes un gibier qui fuyait. « Si j'en croyais mes yeux, dit-il, mais puis-je me dispenser de les en croire, je n'aurais plus qu'à faire amende honorable devant l'autel du spiritisme. Je n'admets pas davantage que la mort de M. Édouard Orlac soit surnaturelle. Et pourtant, cette fois-ci, j'arrive le premier sur les lieux, et ce que je découvre est la preuve même qu'on n'a touché à rien, et ce que je découvre est aussi la preuve de l'impossible. Et c'est moi qui tombe là-dessus, hasard et fatalité. » M. Pingui me poussa le coude et me fit un clignement à peine saisissable dont le sens m'échappa. « Messieurs, continua l'inspecteur, M. Édouard Orlac a été assassiné d'une manière aussi fantastique que son ami M. de Crochan. » Il s'arrêta et nous mit sous le nez le manche du couteau. « Santé !» Une odeur de phosphore imprégnait la corne. « Mais je ne vous peindrai pas ma surprise, scanda le policier, lorsque je reconnus à l'examen des blessures une façon de poignarder qui est restée pour moi sinistrement familière. La vue de ces plaies cruciales me rappelait un vieil adversaire redoutable. N'en pouvant croire un témoignage unique, j'ai cherché d'autres preuves de son passage ici. Et je les ai trouvées en plusieurs endroits, jusque sur le manche du couteau. Ce sont les empreintes digitales qu'il a laissées, l'empreinte surtout de son médius gauche, voyez là, sur le manche, empreinte qui est très caractéristique avec sa petite cicatrice et sa circonvolution en sens inverse. La trace de ce doigt m'est aussi connue que ce coup de couteau. Ils décèlent tous deux l'identité du criminel. Ce criminel, qui était gaucher, s'appelle Vasseur. C'est l'assassin de la veuve Mouchot, de M. Virgogne et de la petite Pitois. Vasseur que j'ai fait arrêter naguère, Vasseur que j'ai fait juger, condamner, et guillotiné. Eh bien, M. Édouard Orlac, lui aussi, a été assassiné par un mort. Chacun manifesta, selon son caractère, l'immense étonnement qu'il ressentait. Crépin et sa femme ouvraient la bouche comme des fontaines taries. Stéphane, qui avait fait l'effort de se lever, nous contemplait d'un œil fou. Mais M. Pingui montrait un ahurissement tempéré d'humour et de réserve. « Va, sœur, » dis-je en m'adressant au Crépin, « vous connaissez ça ?» Monsieur Édouard Orlac prononçait-il ce nom quelquefois ?»« Jamais, » répondit Hermance, hébété. Cointre expliqua, « c'est un des morts qu'il aura évoqué, comme Monsieur de Crochant, parbleu. Il y a dans l'autre monde une bande noire, une société de guillotinés qui continue leur crime au-delà du couperet. » Là-dessus, il se mit à ricaner et nous offrit soudain un visage qu'on eût dit dévoilé d'une gaze de deuil. « Non, mais tout de même, » s'écria-t-il presque joyeusement, « vous n'allez pas me croire bête à ce point. Allons, allons, tout ça, c'est encore de la mise en scène et de la trappe-nigaud. Il y a du stratagème dans ces empreintes. Il y a du médium sous ce médius. Passez-moi donc la main de caoutchouc. » Il souffla de rechef dans cette pièce de vessie qui tenait à la fois du gant et de la chambre à air. Cela fit une main membraneuse dont il étudia les extrémités palmaires. « Rien, » dit-il. « Et pourtant le bon sens exige qu'on se soit servi de gants ou de bouts de doigts en caoutchouc, moulés d'après les empreintes de Vasseur. Il n'y a pas à sortir de là. » Ou alors, c'est qu'il n'y a plus de bon sens et que les démons sont raisonnables. Un moulage, non, je n'en déborderai pas. Mais, lui dis-je, êtes-vous si certain que les empreintes du couteau soient celles des doigts de Vasseur ? Ma tête a coupé, monsieur. Je ne vous réponds pas de ma jugeote, ce serait vaniteux et outrecuidant. Mais pour la mémoire, oh, je suis un peu là. Mon crâne est une boîte à fiches anthropométriques. Et vous savez que le bertillonnage est infaillible. Une empreinte digitale n'appartient qu'à un seul individu. Jamais de sosie en cette matière, tous différents. D'où vous concluez ceci, que les deux crimes commis dans cette maison sont connexes, qu'une même imagination fait court en artifice, les a tous deux adroitement déguisés et qu'un médium en a conçu le plan, s'il ne l'a point exécuté. Mais dans quel dessein ? Oh, nous verrons. Voler, peut-être. Monsieur de Crochant était pauvre, mais Monsieur Édouard Orlac passait pour être millionnaire. Où est le coffre-fort ? Ici. Hermance indiquait le cabinet de travail voisin du salon. Elle l'éclaira de la porte et dit « Le coffre n'a rien et les quais sont pas dessus. Elles doivent être dans la poche de monsieur. » Elles y étaient. « Oh, ça ne prouve rien, » dit Cointre. « On a pu les y remettre après avoir volé. » Les autres poches, fouillées par la même occasion, nous procurèrent quelques objets prévus comme montre, mouchoir, crayon, plus une carte pneumatique datée du jour, reçue le matin, écrite à la machine, et portant ces seuls mots, évoquez ce soir l'esprit de l'assassin Vasseur. Cointre sourcilla. Au dossier, dit-il sans trouver mieux à dire. Allez, voyons le coffre. On passa dans le cabinet de travail. Monsieur Stéphane Orlac, fit l'inspecteur, vous connaissez le secret de la serrure ? Ah non, s'excusa Stéphane. Mais Hermance fièrement, moi je le connais, j'étais la femme de confiance, vous savez. Ouvrez donc, êtes-vous enseigné sur le contenu ? En détail, mais les valeurs sont toutes à la banque et... Il n'y a là que des billets, un peu d'or, quelques papiers et des bijoux de famille. Du reste, vous allez trouver un calepin qui en donne la liste et que si vous ne manquez pas de mettre à jour quand il prenait de l'argent. Ouvrez. Non, attendez, d'abord. Cointre promena sa lampe de poche tout autour du coffre-fort. Pas d'effraction, dit-il, et les caches entrées sont légèrement duvetées de poussière. Donc le coffre n'a pas été ouvert aujourd'hui. Ben, si c'est ça, c'est pas la peine de l'ouvrir maintenant, fit remarquer la servante. Ben, en effet, convint l'inspecteur. Mais, hostile à cette femme, je mis en avant que désormais Stephen était le maître de la fortune paternelle et qu'il me semblait légal, au décès de M. Edouard Orlac, d'ouvrir ce coffre en sa présence. On se rendit à mon observation. Cointre ajouta que les papiers lui apprendraient peut-être quelque chose. Le coffre se trouva renfermé exactement ce qu'énumérait le calepin. Nous le vidâmes et avant de feuilleter les paperasses, Cointre s'assura au moyen de sa petite lampe qu'il n'y restait plus rien. Oh, je me rappelle fort bien le blasphème qu'il proféra sur ces entrefaites et qu'il est superflu de consigner ici. Nous l'entourâmes. Illuminant un coin de coffre noir, l'inspecteur nous montrait des traces de doigts sur une bande de poussière. « L'empreinte » hurlait-il, « mais l'empreinte de Vasseur !» Herman se signa de son affreuse main. « C'est-y qui aura passé au travers du goff ?» demanda-t-elle. « Mais rien ne manque, remarquai-je du fond de mon abrutissement. Qu'est-ce qu'on serait venu faire? Rien ne manque. »« Ben, si on n'a rien emporté, » raisonna Cointre, « c'est qu'on a apporté quelque chose. » Stéphane lui dit, « Non, les sommes sont justes, et pour les bijoux le compte y est, ni trop, ni trop peu. »« Les papiers, alors ?» Cointre s'attabla et saisit avec fougue le premier dossier étiqueté des bonnairements prêts hypothécaires. Or, la première pièce du premier dossier était une carte de visite fraîchement cornée sur laquelle on lisait en écarlate la bande infrarouge. Et le brave Cointre, martelant du poing son front massif, s'écriait, plus lamentable encore que tout à l'heure, « L'écriture de Vasseur ! L'écriture de Vasseur ! Ah, ça, messieurs, passez-moi l'expression, c'est diabolique et infernal !»